Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Mohamed Lamine Gassama, référent de La République En Marche dans le 20e arrondissement de Paris, ancien élu de la mairie du 20e. Bonsoir.
Bonsoir Loïc et bonsoir à tous les auditrices et auditeurs.
Alors il y a quelques jours, vous avez été invité à une réunion à l'Élysée avec les candidats de la majorité battue aux législatives. Vous avez vous-même été candidat face à Daniel Simonet, la candidate LFI qui a été élue députée. D'abord, que retenez-vous de cette campagne électorale et quel a été le message du président Macron aux candidats qui ont été battus ?
Cette campagne électorale est finalement le résultat donné, bien sûr, une situation politique inédite dans notre pays. Il y a une majorité relative. Néanmoins, le président de la République et le gouvernement ont pris acte et agissent résolument pour les Français. On a bien vu qu'ils ont pu faire voter la loi pouvoir d'achat et la loi de rectification des finances publiques de la France. Donc on voit bien que malgré bien sûr un contexte politique difficile où on a quand même des oppositions qui sont très peu constructives, hein, je parle de LFI et le Rassemblement National, les extrêmes, néanmoins on travaille et on arrive à sortir des choses efficaces, des lois efficaces pour les Françaises et les Français et nos concitoyennes et concitoyens. Le message du président, il a été simple, il faut rester combatif sur le terrain, continuer à aller à la rencontre de nos concitoyennes et concitoyens, de rester mobilisé dans un contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, un contexte inédit politique qui voilà est un où on a des extrêmes qui sont très extrêmes dans leur façon de faire la politique. Je pense à la France insoumise qui n'aura aucune occasion d'être dans l'outrance. Mais malgré ça, voilà, il faut agir parce que la boussole, c'est les Françaises et les Français.
Alors Emmanuel Macron va installer dans quelques jours le Conseil national de la refondation. La plupart des partis politiques ont refusé d'y siéger, y compris le parti d'Édouard Philippe, qui appartient pourtant à la majorité. À quoi servira cette nouvelle instance? Est-ce que c'est un organe de consultation comme la Convention citoyenne sur le climat?
Le président de la République continue à vouloir innover en matière démocratique dans notre pays. On ne peut pas toujours à chaque fois dénoncer le fossé entre la démocratie et les citoyens et finalement de pratiquer la chaise vide. Moi je pense que c'est une main tendue, c'est un organe qui va permettre effectivement à des politiques et la société civile de se rencontrer. C'est un peu différent quand même de l'Assemblée, c'est un peu différent quand même du Conseil économique et social et environnemental. C'est une instance qui va effectivement échanger, discuter sur les grands enjeux que notre moment et notre temps a comme défi. Je pense à l'écologie, je pense à la crise démocratique, je pense par exemple à la question des retraites. Donc c'est une instance qui va permettre justement de mettre tout le monde autour de la table et de chercher le consensus de la société française, vraiment de la représentation de tous les corps, pour qu'on puisse effectivement, clairement, travailler ensemble. Et je pense que c'est une méthode qui a été déjà, d'une façon, pendant la crise des Gilets jaunes, avec le grand débat, qui avait été déjà mis en œuvre. Et donc, on continue à tendre la main. Vous pouvez aussi le voir avec l'exemple de Gabriel Attal, ministre du Budget, qui tend aussi la main aux oppositions pour justement construire le budget de la nation. Donc, il faut pouvoir travailler ensemble. Et moi, je pense que la politique de la chaise vide n'est pas la bonne, mais la porte reste ouverte.
Alors, un conseil de défense sur l'énergie a eu lieu vendredi à l'Élysée, Mohamed Lamine Gassama. La ministre en charge de la transition énergétique a rappelé la volonté du gouvernement d'inciter chacun à la sobriété. Les Français se posent beaucoup de questions. Est-ce que nous allons manquer de gaz cet hiver? Que va-t-il se passer après la fin du bouclier tarifaire? C'est une période anxiogène. Pour vous, on entre dans une crise semblable à la crise sanitaire?
Je dirais que les choses sont différentes. Il y a plus d'anticipation de la part du gouvernement et ils n'ont pas ménagé leur effort pour justement que la facture énergétique pour les Français soit la plus indolore possible. S'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire sur le gaz et les énergies, ça aurait été plus 100% que les Françaises et les Français auraient dû payer pour se chauffer, pour se déplacer, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'il y a eu une anticipation et il y a eu des mesures fortes qui ont été prises. Et on le voit par rapport à d'autres pays dans l'Union européenne. La France, finalement, s'en sort pas trop mal sur la question de l'inflation. Maintenant, bien sûr qu'il faut arriver à consommer moins, parce que c'est pas du tout d'avoir un prix qui flambe pas le plus possible, mais que nous, collectivement, mais c'est pas que la France, hein, c'est bien sûr le monde, c'est l'Europe, qu'on consomme le moins possible. Et c'est le discours que Elisabeth Borne a depuis un certain nombre de temps, depuis qu'elle est en fonction, c'est cette sobriété, et d'ailleurs aussi corroborée par le président de la République. Donc on est dans une ère où, effectivement, il va falloir qu'on consomme différemment notre énergie pour qu'elle ne soit pas utilisée pour du confort, mais vraiment pour ce qui est efficace et aussi pour les entreprises.
Quel sera l'impact de cette réduction de consommation de l'énergie pour les personnes les plus fragiles ?
Pour les personnes les plus fragiles, déjà je voudrais rappeler que beaucoup de choses ont été faites pour justement cette période qui est délicate, cette période d'inflation. Je le rappelle, l'inflation en France est de 6-7, c'est déjà beaucoup, mais moindre qu'en Allemagne qui est à 8. En Espagne, c'est 11, en Estonie, c'est 22, pour prendre ces exemples-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, par exemple, pour les étudiants, on continue les repas à 1 euro pour les boursiers, la prime de rentrée de 100 euros pour 8 millions de foyers. Tout ça, ce sont des choses concrètes qui sont dans la poche des Français. Et ça a été une réponse immédiate suite aux élections législatives du gouvernement et du président de la République. Il y a aussi, pour les fonctionnaires, le point d'indice qui a été augmenté de 3,5% par le ministre Stanislas Guérini. Donc toutes ces mesures-là ont été anticipées et on ne laisse pas effectivement les gens les plus précaires, nos concitoyens les plus précaires dans justement dans ce moment où on doit plus de solidarité.
Mohamed Lamine Gassama, le gouvernement demande à la SNCF de faire des économies d'énergie cet hiver, mais pas de réduire la circulation des trains. Vous n'avez pas le sentiment qu'il s'agit d'injonctions contradictoires? Comment baisser les dépenses d'énergie sans toucher à la qualité du service? Je prends l'exemple de la SNCF, mais cela pourrait toucher d'autres grandes entreprises qui offrent un service public.
Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un effort collectif. Et il va falloir qu'on imagine des moyens de fonctionner différents dans ce contexte de tension énergétique. Donc c'est ce que le gouvernement demande aux grandes entreprises, notamment la SNCF, qui est le plus grand consommateur d'électricité en France, parmi les entreprises. Donc voilà, c'est pas une injonction, c'est surtout d'appeler à la responsabilité de tous et de toutes.
On pourrait imaginer de réduire l'énergie, par exemple, en favorisant à nouveau le télétravail?
C'est une piste qu'il faudra effectivement explorer, mais ce n'est pas la seule.
Il n'est pas question de laisser certains établissements non chauffés, je pense aux hôpitaux, aux écoles. On est obligé de se poser ce genre de questions, par exemple, en Angleterre, il va y avoir des écoliers qui iront à l'école dans une école non chauffée.
Non, c'est pas là. Bien sûr que les hôpitaux, tous les, si j'ose dire, je vais reprendre un mot, tous les organismes essentiels, les services publics essentiels à notre fonctionnement seront le moins impactés. Ce que le gouvernement demande, c'est surtout aux entreprises, hein, c'est pas aux ménages, mais c'est aux entreprises, de justement réduire leur consommation de 10% énergétique. C'est, je dirais, inédit dans notre société, mais c'est surtout le moment qui l'exige. Et je pense que les entreprises seront à la hauteur parce qu'elles sont responsables. Il y a eu l'université du MEDEF très, très récemment et on a entendu que voilà, les patrons avaient compris ce message-là et qu'ils allaient appliquer. La première ministre a demandé un plan de sobriété aux entreprises, donc tout ça est en marche et produira ses effets. Mais voilà, c'est la responsabilité de tous. on n'est pas dans l'injonction, on doit réagir tous ensemble au même moment.
Ce début de semaine, Mohamed Lamine Gassama, est marqué par la décision de l'Allemagne de mettre à contribution les super profits des entreprises. Est-ce que la majorité pourrait finalement accepter de taxer ces super profits, ceux réalisés par les entreprises du CAC 40, comme le souhaitent Olivier Faure et Jean-Luc Mélenchon, qui vont lancer un référendum populaire sur cette question ?
Vous savez, en France, on a toujours cette proportion à vouloir toujours taxer. Est-ce que ça apporte une solution ou pas pour les ménages et pour ceux qui en bénéficieraient. Il a été demandé, par exemple, à Total de donner une ristourne de 20 centimes aux utilisateurs de voitures. C'est équivalent à 500 millions d'euros, ce qui aurait été l'équivalent d'une taxe sur ce qu'on appelle les super profits. On voit bien qu'il y a un souci d'efficacité, parce que là, la ristourne de Total, elle va directement dans les poches des Françaises et des Français. Donc, je pense que l'efficacité aussi en matière de pouvoir d'achat n'est pas à exclure, et je pense qu'un référendum, c'est peut-être un peu pour se faire plaisir, un peu de com. Nous, on n'est pas là pour faire de la com, on est là pour être efficace, pour justement ne pallier à cette crise énergétique. Donc, ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir tout de suite des dispositifs efficaces qui permettent aux personnes de se déplacer. En ont le plus besoin.
Mohamed Lamine Gassama, pour sa première rentrée scolaire, Pape Ndiaye est confronté à un manque d'enseignants et d'AESH. Est-ce que les députés et le gouvernement vont prendre les décisions qu'il faut pour revaloriser ces métiers et attirer davantage de candidats pour ces postes essentiels ?
On a bien vu que la volonté du gouvernement, la volonté du président est la mise en œuvre par le ministre de l'Éducation nationale, Pam Diaye, c'est effectivement de revaloriser l'écosystème de l'Éducation nationale dans son ensemble. Tous ceux qui sont de près ou de loin en lien avec les enfants et les jeunes. Donc effectivement, ça va être un sujet qui va être traité très rapidement. Il y a des recrutements qui ont été faits de AESH et donc ça va continuer. Il y en a 130 000 en France, environ. Et donc, il faut effectivement revaloriser ces métiers qui sont essentiels auprès de nos jeunes qui sont en situation de handicap. C'est quelque chose qui est important, et ça a été répété par le ministre de l'Éducation nationale.
Alors, 3 ans après le Grenelle sur les violences conjugales, le nombre de féminicides a augmenté. Une mission parlementaire aura lieu sur la création de juridictions spécifiques pour traiter ces affaires de violence. Ça peut être un moyen efficace de lutter contre les violences conjugales et les féminicides ?
Comme je vous l'ai dit, l'égalité femmes-hommes demeure la grande cause du quinquennat. Elle a été, lors du précédent quinquennat, et elle le reste maintenant avec la ministre Isabelle Borom. Effectivement, la ministre souhaite cette juridiction spécifique pour traiter ces violences conjugales. Ça me paraît intéressant comme piste à creuser. En plus, elle est magistrate, donc elle sait de quoi elle parle. Elle s'inspire aussi de ce qui se passe au Canada et en Espagne. Bien sûr, il faudra adapter au cas de la France. Mais ce que je veux dire, c'est que le traitement de féminicide a nettement quand même été amélioré avec le Grenelle sur les féminicides. Il y a 157 000 policiers et gendarmes qui ont été formés sur ce sujet-là. Il y a 417 intervenants sociaux qui interviennent dans les commissariats pour justement accompagner les femmes qui sont victimes de ces violences-là. Moi, j'avais visité lors de la campagne législative dans le 20e, le commissariat du 20e, et j'avais vu qu'il y avait des dispositifs qui avaient été mis en place par le commissaire pour justement accueillir dans l'urgence et dans le premier instant les femmes qui étaient victimes de violences conjugales, avec un espace dédié où la victime a la possibilité de si j'ose dire, de retrouver ses esprits et de se reconnecter à elle-même et de pouvoir justement après, ensuite, mener des démarches de prise de plainte et ainsi de suite. Il y a là aussi la question de, quand vous avez été accueilli, quand vous avez déposé votre plainte, de l'après, comment on se reconstruit. Et c'est toutes ces démarches-là aussi qui va être mise en place avec la nouvelle ministre Isabelle Rome. Et ça, je pense que c'est plutôt quelque chose qui va être soutenu par l'ensemble de la société, des ONG et des associations qui œuvrent dans ce domaine-là.
Alors cet été, SOS Racisme a pratiqué des testings sur des plages privées et des discothèques dans le sud de la France. Plusieurs établissements ont des pratiques discriminatoires, ça a été prouvé. Comment lutter davantage contre ces discriminations ?
SOS Racisme fait un travail important sur ce domaine-là et le président de la République a aussi validé cela lors de la campagne présidentielle avec effectivement des testings qui seront et des contrôles qui seront beaucoup plus accrus sur la lutte contre les discriminations. C'est un sujet bien sûr extrêmement important et qui même moi me tient à cœur parce que c'est un sujet que j'ai traité quand j'étais même adjoint au maire dans le 20e. Donc on continue et bien sûr les ONG, les associations comme SOS Racisme sont dans leurs compétences et dans leurs convictions et dans leur action et on les soutient quand ils font ce genre de choses.
Dernière question, Mohamed Lamine Gassama. Le week-end a été marqué par les forums d'associations dans chaque ville de France. Vous qui êtes enraciné dans le 20e arrondissement de Paris, le rôle de ces associations est capital pour le vivre ensemble ?
Les associations sont essentielles au bon fonctionnement de notre société. Si elles n'étaient pas là, il y a plein de choses qui ne seraient pas faites. Il y a plein de solidarités qui ne seraient pas dans des quartiers. Moi, je le vois dans le 20e, il y a plein d'associations qui œuvrent dans la solidarité au quotidien. Et donc, moi, je les soutiens, bien sûr, vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Et d'ailleurs, le 10 septembre prochain, ça sera le forum des associations dans le 20e. Il y a un rendez-vous annuel que je ne manque pas et c'est aussi la part de solidarité, la part d'engagement citoyen qu'on peut tous avoir. Moi j'étais avant de faire de la politique, j'étais dans des associations et je continue à soutenir certaines associations, notamment sur la question de l'emploi des jeunes. Il faut continuer à les soutenir. C'est un moment qui l'exige et c'est un moment qui permet à tout citoyen de pouvoir s'engager, même une heure, dans la semaine. Mais en tout cas, je pense que c'est important de pouvoir inculquer ça aussi aux jeunes générations, cet engagement citoyen.
Merci Mohamed Lamine Gassama. Je rappelle que vous êtes référent de La République En Marche dans le 20e arrondissement de Paris et ancien élu de la mairie du 20e. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.